Découvrez MyMatch en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre cote personnalisée. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Maître Yodu, Johan Durand, l'homme poisson.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça va, t'es en forme?
Impeccable, bon. C'est l'été, c'est l'odeur du petit barbecue, tu vois, l'entraînement en torse nu, les choses comme ça.
Ah, j'ai cru que t'allais me dire la bonne bouteille.
La bonne bouteille de rosé aussi, un peu même. Fraîche. Bon. C'est ça, exactement.
Il y a eu certaines polémiques comme quoi le rosé, c'était pas vraiment du vin, quoi. C'était un vin de piètre qualité. Mais bon, toi, tu peux pas laisser dire ça, quoi. C'est pas possible.
Non, bah, après, difficile de leur donner tort. C'est en tant que professionnel du vin, moi, ce que j'aime, c'est les vins rouges de garde, tu vois, des trucs que tu gardes pendant 10 ans.
Bien sûr. Bon, Johan, on est ravis que tu sois là. Vous nous rejoignez sur Strava, sur Insta. On vous souhaite à tous de bonnes vacances, évidemment. Publiez vos sorties dans le club RMC Running. Et on a un épisode exceptionnel, une épreuve qui fait rêver nombre de triathlètes qui nous écoutent. Un coup de projecteur sur l'une des courses les plus dures au monde, le Northman. C'est pour ça que toi, tu en as des sueurs froides. Triathlon extrême, c'est la distance Ironman. Ça se déroule en Norvège tous les ans au mois d'août. Pour en parler avec nous, on va recevoir Brice Maillard, qui est un peu le représentant français du Northman, multiple finisher. Audrey et Bastien, qui préparent ce triathlon extrême, donc ils sont dans les starting blocks. Et puis on aura un bon plan matos en deuxième partie, un outil de récupération, Compex à l'honneur. Le Fix Mini, c'est un masseur portable sans fil, on va tout vous dire.
Ah, c'est bien ça.
Ouais, avec le directeur marketing de Compex qui sera avec nous, Mathieu Pourruche. Donc on y va tout de suite pour cet épisode RMC Running fantastique. Enfilez vos baskets, vos combinaisons, vous attachez les lacets et on va plonger dans l'eau froide, gelée d'un fjord.
Le Northman. 3800 mètres de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied.
This is not for you.
Ça, c'est ce qu'on va voir.
C'est une expérience particulière quand même. C'était un rêve. Après, c'est devenu un projet. Et après, c'est devenu une mission. Et je pense qu'on l'a accompli, la mission.
It's so hard.
Et ils sont là, nos invités, avec nous. Aujourd'hui, on va vous raconter l'enfer du Nord, le Northman. Brice Maillard est là. Salut, Brice.
Salut, Benoît. Bonjour à tous. Salut, Yodu. Salut, la communauté.
Bon, Brice, salut. Ça te va, le dénominatif de représentant français du Northman?
Oui, c'est le cas. Et puis, cette année, j'aurai le plaisir et le privilège de faire partie de l'organisation en Norvège. Donc, voilà, je fais partie des tout premiers étrangers et en particulier francophones qui ont la possibilité de rejoindre les Norvégiens pour faire vivre cette belle épreuve.
Et ben voilà, magnifique. Et on a la chance d'être avec deux Français qui vont tenter d'aller chercher ce t-shirt noir de finisher. Audrey qui est avec nous. Salut Audrey.
Bonjour à tous.
Et Bastien qui nous rejoint aussi. Salut Bastien.
Salut à tous.
Bon, je vais recontextualiser un peu ce que représente le Northman. 160 t-shirts noirs, voilà. 5000 mètres de dénivelé positif, excusez-moi. Le Northman, c'est la distance d'un Ironman, donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Brice, tu me confirmes que c'est toujours d'ailleurs le support du championnat du monde de triathlon extrême? Ça, c'est encore la bonne définition?
Ouais. Exactement, et l'un des trucs qui est fantastique pour les amateurs qui ont la possibilité d'avoir un dossard pour cette épreuve, c'est qu'ils se retrouvent sur exactement la même ligne de départ que des athlètes qui sont semi-pro ou pro. L'année dernière, vous aviez Sébastien Kienle qui a été champion du monde il y a quelques années d'Ironman, et tout le monde part au même moment, et potentiellement, si vous n'êtes pas trop mauvais, vous pouvez devenir champion du monde de triathlon extrême.
Et ben voilà, c'est un bel objectif sur la ligne de départ. Bon, c'est pas donné à tout le monde. forcément, on a un peu tous découvert cette épreuve extrême avec le magnifique Intérieur Sport qui avait été réalisé par Canal+. Hein, ça avait donné des frissons, ce départ avec ce saut dans un fjord depuis un ferry. Tu as vu ça, Johan, on en a déjà parlé ensemble. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, un immense respect? Souvent, on parle d'épreuves mythiques et extrêmement difficiles ici, mais celle-là, j'ai l'impression qu'elle t'impressionne particulièrement, Johan. Hein.
Ouais, non, bah, l'Ironman déjà en lui-même, je trouve que c'est une des épreuves les plus dures au monde. Hein. Parce que voilà, il y a la natation, il y a le vélo, il y a la course à pied. C'est des durées d'effort qui sont extrêmement longs. C'est des sports totalement différents. Donc en termes de préparation, c'est déjà très compliqué. Mais là, t'es dans des conditions un petit peu c'était dans des conditions extrêmes. Te jeter à 4h du mat dans une eau à 14 degrés pour nager 3 bornes et demie, c'est quand même pas, c'est pas normal, tu vois. C'est pas, non. T'es pas à Nice à faire l'Ironman de Nice et après ensuite à courir sur la prom classique. Ouais. Là, c'est pareil pour le vélo avec le dénivelé de dingue qu'il y a. Les pourcentages de pente qui sont fous. Donc effectivement, ouais, j'ai un grand respect et je trouve que derrière ça, tu vas chercher quand même au fond de toi c'est un truc hors du commun, quoi.
Ouais,
faut être prêt mentalement à être à 2000%, quoi.
Voilà, si vous fermez les yeux, en fait, vous avez à sauter d'un ferry dans une eau entre 14 et 16 degrés. Ensuite, vous avez 180 km de vélo. Avec 3360 mètres de dénivelé positif. La dernière ascension, c'est digne de l'Alpe d'Huez. Et puis ensuite, vous avez un marathon à parcourir. Mais là aussi, c'est pas tout plat.
Tu finis sur du trail.
Ouais. Ouais, c'est du 1800 mètres d'altitude. Voilà, vous allez passer par Zombie Hill, la montée des zombies. Et d'ailleurs, avec cette extrême difficulté, c'est que seulement 160 des participants peuvent aller jusqu'au sommet, et aller décrocher ce t-shirt noir, parce qu'à partir de la 161e personne, on bloque. Interdiction donc d'aller jusqu'au bout de cette magnifique épreuve. Brice, c'est tout simple, pour commencer, la première étape, le premier passage extrêmement difficile, c'est de décrocher un dossard, parce qu'il y a un engouement mondial autour de cette épreuve, et il y a que, tu nous le disais, 270 chanceux. Donc déjà, décrocher un dossard pour le Norseman, c'est un exploit. Hein.
Ah, exactement, c'est un vrai exploit, parce que chaque année, au tirage au sort, vous avez quasiment 10 000 personnes qui vont postuler pour... Alors, encore l'année dernière, encore pour 2023, on était sur un peu plus de 250 dossards qui étaient proposés. Maintenant, le règlement a un peu changé parce qu'il y a la possibilité de faire des courses qualificatives extrêmes pour prendre des points. Et donc, on a coupé la poire en deux. Vous avez à peu près 120 dossards pour les courses qualificatives avec des points X-Tri et le reste via le tirage au sort. Donc, les chances d'avoir un dossard sont moindres. Il y a la possibilité, en faisant des courses partenaires, d'y arriver, mais ça reste très très compliqué. Beaucoup de personnes essayent pendant des années. Vous avez des personnes qui des fois vous postent sur les forums, bon bah voilà, ça fait 6 ans que j'essaye le tirage au sort et enfin je l'ai. Et puis vous en avez d'autres, ça fait l'épreuve à 20 ans, ça fait une quinzaine d'années qu'il y a le tirage au sort, ça fait 15 ans qu'ils essayent et qu'ils n'ont pas le dossard. Le fait de pouvoir vivre leur rêve ne leur est même pas accessible. Voilà.
Tu sais Brice, à chaque fois que je croise un triathlète et que je lui dis bah on va parler du Norseman, je vois l'œil qui pétille. Donc là il y a vraiment un côté, non mais c'est vrai, il y a un côté mythique sur cette course et on peut en parler donc avec Audrey et Bastien qui auront la chance d'y être au mois d'août prochain, donc d'ici quelques jours. Bon, Audrey, c'est pas n'importe qui. Audrey, elle a terminé 27e féminine au championnat du monde 73 en 2019. Elle a couru un Ironman à Copenhague en moins de 10 heures, donc c'est quelqu'un d'extrêmement solide. Audrey, le Norseman, c'est quelque chose de particulier? C'est-à-dire que c'est la course qui te fait le plus rêver, entre guillemets?
Oui, ça fait partie des mythiques quand on fait du triathlon avec l'Ironman d'Hawaï et l'Ironman de Roth en Allemagne. Je pense que c'est les trois courses les plus qui représentent le plus le triathlon longue distance. Et pour moi, c'était aussi de pouvoir... parce que je vis dans un endroit un peu particulier, en montagne.
Ouais.
Et l'acclimatation pour toutes les autres courses, c'est toujours un peu particulier de par mon lieu d'habitation. Et du coup, le Norseman correspondait aussi à voir... j'aurais un peu moins d'acclimatation, on va dire, par rapport aux autres courses qui sont plus plates et dans des chaleurs plus excessives que le Norseman. Donc, c'était aussi de pouvoir transformer ce qui est fait en préparation sur une course. Et puis j'ai une affection particulière pour les pays scandinaves, donc j'ai fait la Finlande, j'ai fait le Danemark et la Norvège. La Norvège, ça reste un rêve aussi. Donc pouvoir nager dans les eaux norvégiennes, oui, ça fait plaisir.
Tu te rends compte, Yodu, vous avez plein de points communs. Elle adore le froid, tout ça, quoi. La natation.
Tout comme moi. Ouais. Vélo, me jeter d'un ferry. Ah ouais. Franchement, des fois, j'en rêve.
Le saut me fait moins rêver quand même.
Ah oui, j'imagine.
Le saut me fait moins rêver. Ah ouais. Voilà.
Mais c'est ce qui ressort surtout sur tous les reportages. Allez vraiment sur YouTube, regardez tout ça parce que ce sont des sportifs de haut niveau, de grande qualité, mais on voit même chez eux l'appréhension au moment de monter sur le ferry et de se dire ça y est, là on peut plus reculer, on est parti et on va y aller, on va s'envoyer une journée de sport extrême. Alors ton profil est un peu différent, toi Bastien, tu es prof de PS, tu es aussi un sportif accompli, mais tu as beaucoup moins d'expérience sur l'Ironman. Tu n'as bouclé pour l'instant qu'un seul Ironman dans ta carrière de sportif.
Oui, alors effectivement j'ai pas le même palmarès qu'Audrey. J'ai commencé le triathlon il y a 4 ans seulement.
Ouais.
Avant, je faisais beaucoup de foot et de tennis. Je me suis mis au triathlon par défi, en fait, en voyant les vidéos de toutes ces athlètes qui bouclaient des Ironman. Ça me paraissait complètement fou. j'ai voulu m'y confronter. Voilà, c'était un peu mon défi des 30 ans, on va dire. Donc, effectivement, j'ai fait l'Ironman de Nice en 2021.
Qui s'est bien passé ?
Qui s'est pas idéalement passé, non, j'ai eu beaucoup de crampes très tôt sur le vélo, donc la journée a été plutôt longue.
Il fera moins chaud. Hein.
C'est pas la chaleur le problème, a priori. Ouais.
Ça dépend des années, Brice pourra peut-être vous le dire, ouais. Il peut faire très chaud comme très froid, donc ça peut aussi être le souci.
Alors Brice, raconte-nous toi ton histoire personnelle, parce que c'est vrai que toi, tu as créé un lien avec les organisateurs, tu l'as fini plusieurs fois ce Norseman, et donc tu as plusieurs expériences différentes, notamment au niveau des conditions météo. Tu peux passer du tout au tout à cette période de l'année en Norvège.
Alors oui, c'est fantastique, on est au mois d'août, mais c'est un mois d'août norvégien, donc vous avez la chance en une seule course de pouvoir expérimenter les quatre saisons norvégiennes au même moment, donc c'est super pratique, pas besoin de revenir à plusieurs reprises en Norvège, vous faites tout le même jour. Le fait est, c'est que c'est une course qui part d'un point A qui va jusqu'à un autre point B, donc il y a 226 km de distance quand vous additionnez tout mis bout à bout, et au fur et à mesure de votre parcours, vous allez rencontrer plein de conditions différentes. À un moment donné, vous êtes au niveau du fjord, donc l'eau est froide parce que c'est de l'eau qui arrive des glaciers qui sont sur les montagnes à côté. Vous commencez le vélo, c'est plutôt agréable, et à un moment donné, vous vous retrouvez en haut d'un plateau à Dinarut où il y a un vent, où vous êtes à 0 degré, où vous prenez potentiellement de la pluie. Vous redescendez un peu à vélo, là il va falloir que j'enlève 3 couches de vêtements parce que je commence à avoir chaud, j'ai descendu de 400 mètres et autres. Et sur la course à pied, vous pouvez très bien vous retrouver dans la vallée en t-shirt, voire enlever le t-shirt comme Yodu en ce moment pendant ses entraînements. et à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure après, mettre la doudoune parce que vous êtes sur les pentes de la montagne.
Eh ouais.
Donc, il faut être prêt à être dans l'adaptation en permanence. Et il est compliqué de juste se dire, c'est bon, je suis dans mon effort. Non, il va falloir y réfléchir. Et le grand point positif de cette épreuve, c'est les supports. On a aujourd'hui 2 athlètes avec nous, mais ces 2 athlètes vont venir accompagner. Pour pouvoir réussir, vous devez avoir des supports qui vous accompagnent, qui vous ravitaillent et qui vous aident à vous changer les vêtements, à vous réchauffer si c'est nécessaire. Et vous accompagner pour la sécurité jusqu'au bout de l'épreuve.
Et tu as raison, c'est un vrai défi collectif et ça fait partie du charme du Norseman. Ça fait partie du coût aussi, parce que ça représente un coût très élevé. Une fois qu'on a le dossard, c'est pas terminé. Il faut gérer tout le dossard, il faut gérer l'assistance soi-même, tu l'as dit. Et cet esprit collectif, il est fantastique, Audrey et Bastien. Audrey, qui va t'accompagner, toi, alors, au mois d'août prochain ?
Alors, moi, je me suis mis au triathlon après la naissance de mes enfants, de mes 3 filles.
Ouais.
Et maintenant, elles sont grandes, elles ont 18, 16 et 12 ans. Et du coup, c'est mon mari et mes 3 enfants
génial.
Qui seront là. Et mes supports vont être, du coup, ma fille aînée, parce qu'elle est majeure, et mon mari.
Okay.
Et c'est ma fille aînée qui m'accompagnera sur l'ascension finale. Et elles m'ont suivi et accompagné sur toutes les courses. Et du coup, bah, c'est quelque chose de famille. C'est à chaque fois nos vacances sportives de partir sur des événements. Et là, elles vont être encore plus actives en étant support. Et elles le prennent très, très à cœur, autant dans l'entraînement qu'elles se font pour être en forme, que dans l'investissement à côté, de bien voir comment ça se passe. Donc oui, j'ai hâte.
Il y a un vrai enjeu, tu as raison de le dire, parce qu'il y a l'enjeu pur et dur d'assistana, c'est-à-dire qu'il faut aider à enlever la combinatation, il faut aider à s'alimenter, à s'hydrater, à faire les bons choix comme ça de vêtements en fonction des conditions météo. À rebooster mentalement, mais il y a aussi un rôle entre guillemets d'accompagnateur et de guide sur l'ascension finale en course à pied, parce que forcément les sportifs qui arrivent sont extrêmement fatigués, mais c'est un parcours ultra technique, Brice, qui les attend sur du caillou, des choses très difficiles, et là l'accompagnant a un vrai rôle comme ça de guide un peu pour aider son pote ou le membre de sa famille à atteindre cette ligne d'arrivée, quoi.
Ah oui, pour les 160, on va dire, entre guillemets, chanceux qui arrivent cut-off montagne et qui ont la possibilité de monter en haut du Gochtatopen, 1880 mètres, c'est pas un cadeau, parce que finalement, sur les 5 km, ils vont se prendre 100 mètres de D+, par kilomètre, donc ça commence à bien casser au niveau des quadris et il faut pousser sur les cuisses pour monter. Et à ce moment-là, votre athlète, il a au mieux, s'il est très bon, une dizaine d'heures, voire 11 heures dans les pattes. Mais il y a de grandes chances qu'il ait déjà 12 ou 13 heures d'effort physique, ainsi que vous, parce que vous êtes réveillé depuis 2 heures du matin et vous l'avez accompagné. Donc, en termes de sécurité, c'est pour ça que c'est à un moment donné qui est charnière et qu'on limite à 160 le nombre d'athlètes qui montent, parce que après, vous êtes en pleine nuit, il y a du brouillard, ça peut être compliqué de voir, et c'est du caillou. Donc, ça prend du temps. C'est plus une balade qu'une course à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, exactement. Bastien, qui va t'accompagner, toi ?
Alors, moi, j'ai la chance d'y aller en famille aussi. Donc, il y aura mes deux parents, mon frère, ma copine et un copain du club dans lequel je suis. Au-delà de l'aspect mythique de cette course, la difficulté, etc., moi, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'est effectivement cet esprit collectif, parce que sur les courses en général, on peut avoir des supporters, mais on est quand même seul dans sa course et face à sa performance. Ouais. Et là, au Norseman, c'est une course réellement qu'on ne peut pas faire tout seul. Et on dépend vraiment de ses supports. Et donc, c'est vraiment cet aspect collectif, moi, qui me hype un peu aussi.
Bastien, là on a des sentiments particuliers parce qu'on s'approche vraiment, là on est au début du mois de juillet, donc c'est dans un peu plus d'un mois, ça vient très vite. Quelle est l'angoisse principale ? C'est l'angoisse du saut dans l'eau du fjord ? C'est l'angoisse de ne pas arriver sur le cut des 160 premiers ? C'est quoi ? Quelles sont tes craintes principales, Bastien ?
Alors moi... contrairement aux autres, je pense c'est pas la natation qui me fait peur du tout. Je suis pas trop sujet au froid. Je me suis testé au début du printemps, donc la natation me fait pas plus peur que ça. Par contre, je suis plus sujet aux crampes, donc c'est surtout ça qu'il va falloir que je gère. Donc c'est la partie course à pied, moi, vu le dénivelé qu'il y a, qui me fait un peu peur. Ouais.
Et toi, du coup, Audrey ?
On va dire que sur la course, le saut, parce que j'ai visualisé sur les images, sur ce que nous a dit aussi Brice par les interventions qu'on a eues avec le groupe qu'il a créé, la des francophones, de la hauteur du saut. Et puis, mon défi, ça a été, j'étais pas nageuse du tout, je savais pas nager jusqu'à il y a 12 ans, jusqu'à la naissance de ma dernière fille. Et j'étais phobique de l'eau, donc j'ai dû... je me suis mis
Comme toi, Johan.
je me suis mis... rien n'est impossible. Et puis mon mari m'a dit, il ne faut pas se mettre de limites. Donc j'ai appris à nager, j'ai appris à vaincre ma peur de l'eau et de prendre plaisir de se dire qu'on peut nager dans tout plein de mer, d'océan, etc. Donc c'est vrai que le saut... Voilà. L'eau froide, ça va, mais le saut, je pense que je ne serai pas la plus sereine. Il va falloir faire du travail mental à ce moment-là, mais ça ne dure pas longtemps.
Allez, je viendrai, je sauterai avec toi.
Voilà, voilà, tu me tiendras la main. Non, mais... Poussez dans le dos et hop.
C'est la beauté de la mission de Brice, parce que Brice, tu encadres, entre guillemets, comme on l'a dit, les francophones. Il y a combien de francophones au départ du Norseman cette année alors?
Alors, moi, j'ai le grand plaisir d'animer un groupe que j'ai créé de 25 athlètes. En plus de 23 Français, on a un Belge et une Suisse.
Okay.
Cette année, vous avez la liste de départ a été fixée. On sera 279 athlètes présents au Norseman. Donc, vous voyez, le contingent français est assez important.
Ah,
quasiment
ouais.
10% des participants. Chaque année, c'est la même chose. Les Français sont les plus importants. Et l'organisation Norseman, par mon intermédiaire, a envie de leur dire merci beaucoup, merci à la France de cette attention et le Norseman aime la France et a envie que ça continue à se développer, à bien vivre. Et donc dans ces 25 athlètes, c'est fantastique parce que chacun arrive avec son histoire, chacun arrive avec ses questions, ses peurs. On a des athlètes très performants, on en a deux qui potentiellement, selon moi, peuvent terminer dans le top 10 de cette année. On a des athlètes qui reviennent de graves blessures, assez impressionnant. Et puis on a un athlète qui maintenant n'est plus dans le groupe, donc je vais juste lui faire un petit coucou, qui s'appelle Philippe, qui était avec nous au tout début. Et Philippe, il a une belle histoire parce que en fait le Norseman a sauvé sa vie cette année. Dans le cadre de sa préparation, vu que c'est quelque chose d'extrême, il a fait un test de santé, un test avec un cardiologue pour voir si tout allait bien, et on lui a détecté un petit problème. Opération, maintenant c'est bon, tout va bien, il va être avec sa famille. C'était un projet de Norseman, un projet très important pour lui. Je pense fort à lui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, et c'est beau de se dire que en préparant quelque chose d'important qui était un marqueur dans sa vie, ça lui a permis de continuer à avancer. Et voilà, le meilleur à lui, et on pense fort à lui.
Bon, et voilà, le message est passé, on s'associe à ce message. Un gros contingent français. Johan, quand tu regardes tout ça, toi, quelle est la partie qui t'inquiète le plus pour les coureurs francophones et pour les autres d'ailleurs? Tu te dis que le plus dur à passer, c'est la natation, c'est le froid sur le vélo, parce que c'est ce qu'on ressent quand on regarde des vidéos, tu vois. C'est quoi le plus dur?
Il faut discuter. Après, ça dépend souvent de tes qualités, tu vois. Il y a des mecs qui roulent très bien et ça sera peut-être pas forcément le vélo. Ça dépend vraiment de tes qualités premières, mais je pense malgré tout que le vélo, avec le vent et le dénivelé qu'il y a, et c'est des 3300 mètres de dénivelé, c'est énorme. C'est une étape de montagne du Tour. Tu as des passages à plus de 10%. Quand tu es dans le froid avec un bon vent de face tout seul sur ton vélo, et puis là les écarts, enfin t'es pas beaucoup au départ, donc les écarts sont assez monstrueux, donc tu roules pas en peloton, hein. Donc ça c'est difficile. Après la course à pied c'est un peu sauf qui peut, tu vois, t'es rincé de tes deux sports avant, mais si tu peux être aidé sur la fin de course avec quelqu'un qui t'accompagne, déjà ça, d'un point de vue mental, ça rebooste. Ouais, c'est peut-être le vélo, si je dois en choisir un des trois, où je pense que qui est vraiment le plus compliqué, c'est quand même les 180 bornes de vélo. Parce que là, pour le coup, tu as vraiment froid en vélo. Autant en course à pied, moi, j'ai jamais eu vraiment froid les extrémités. Tu sais, tu as juste froid au bout des doigts et aux mains, c'est tout. Mais en vélo, tu peux être vraiment frigorifié de la face, les mains tétanisées, et puis les pieds, ça bouge pas, à l'inverse de la course à pied. Et pour le coup, tu peux avoir très froid en vélo. Ouais.
Allons-y sur les préparations. Déjà, quelles sont les grandes lignes, les grands conseils d'un plan de préparation pour le Norseman, Brice? Quels sont les grands conseils que tu as donnés à tous ceux que tu encadres?
Le plus grand conseil, malheureusement, c'est un conseil de prudence, parce que le Norseman, comme on l'a dit, c'est une épreuve où tirage au sort ou point, et donc c'est compliqué à avoir un dossard. Donc le plus important, c'est d'arriver à l'épreuve sur le lieu de départ.
Oui, t'as raison, il faut une prépa prudente, mais c'est un bon conseil.
Et exactement, parce que les gens qui en font trop, là, par exemple cette année, quand je vous parle de 279 partants, en fait au départ il y avait 350 places qui avaient été distribuées, et donc sur ce contingent-là, il y en a plus d'une cinquantaine qui ne viennent pas, soit pour des problématiques économiques, soit pour des problématiques physiques, parce qu'il y a des blessures et autres. Donc il faut être prudent, et après c'est comme toute préparation d'Ironman montée en charge au fur et à mesure, et de l'acclimatation. L'un des éléments qui est le plus important pour la préparation des triathlons extrêmes, c'est en fait des fois de se mettre face à des conditions compliqué, c'est-à-dire que l'hiver, quand vous vous entraînez, au lieu de se dire bah, « j'attends une demi-heure ou une heure que l'averse soit passée bah, », en fait, c'est le moment donné où il faut y aller. Non pas que d'un point de vue physique ou sportif, vous allez vraiment vous développer, mais dans la tête, vous allez inscrire quelque chose. J'ai été capable de me faire ma sortie dans des conditions horribles, et le jour où ça va arriver en course, vous savez que vous l'avez déjà passé une fois.
Ah ouais. Tu conseilles aux Parisiens de sauter dans la Seine avec Anne Hidalgo, du coup ?
Je conseille à tous les Parisiens d'aller profiter des bassins qui sont à disposition à côté de la Seine. Donc, vous avez choisi le Roi, par exemple, un bassin pour le faire. Donc, allez là-bas, vous serez plus tranquille.
Bon, les plans de préparation, Audrey, tu es une habituée, tu as de l'expérience, tu as fait du 70-3, donc c'est, vous aimez pas qu'on appelle ça comme ça, mais c'est les semi-Ironman, les Half-Ironman. Comment tu t'es préparée? Est-ce que la prépa était différente des autres, ou est-ce que tu as eu des axes de préparation différents? Comment tu as organisé tout ça?
Oui, alors préparation un petit peu différente par rapport au profil, c'est-à-dire que là j'ai accès. Alors, ce que je vous disais, moi, la particularité, c'est que je fais plus de vélo sur home trainer que de vélo dehors, parce que j'habite à 1800 mètres d'altitude et que à partir du mois de novembre jusqu'à au mois de mai, on peut pas sortir les vélos. Je suis dans la neige et je peux pas sortir les vélos. Après, sur le vélo, on a travaillé... alors, mon entraîneur, c'est mon mari, donc c'est assez facile, on va dire. Donc, on a mis l'accent sur, justement, des ascensions longues de 30 km, comme le col du Petit Saint-Bernard, parce que je suis en Haute-Tarentaise, donc comme le col du Petit Saint-Bernard, pour aller chercher des pourcentages dans les cols, des cols de 10%, comme le San Carlo en Italie. De se préparer aussi au niveau de la course à pied, parce que c'est la discipline que j'affectionne le plus. Donc j'aimerais essayer de courir Zombie Hill. Donc moi, je suis sur Val d'Isère, donc il y a le col de l'Iseran qui est juste à côté, donc de courir le col de l'Iseran, le monter en courant voilà, de manière régulière.
Ce qui est un vrai défi, hein. Sans marcher,
voilà,
quoi.
Après, non, sans marcher, mais après, pour voir en fait en course comment ça va pouvoir se transformer. Mmh. Parce que par contre, je ne l'ai jamais fait à la suite d'un vélo exigeant. Ouais, voilà. Et comme disait Brice, les conditions climatiques, c'est-à-dire qu'on a un printemps et un début d'été qui a été formidable pour une préparation Norseman, en tout cas nous, là où je suis.
Oh, nous aussi,
donc
hein.
J'ai eu la grêle, le vent, le brouillard, trempé. C'est là où en effet le vélo en étant mouillé, je pense que ça va être... j'espère qu'il ne va pas pleuvoir sur les 180 km.
Ah ouais, c'est ça. Un petit peu d'accord, mais pas tout, pendant toute la durée du vélo.
Pas
quoi.
Tout du long. Soyons fous. Pas tout du long. Je pense que ça doit être quand même quelque chose de dantesque.
Alors, Bastien, toi, comment est-ce que tu t'es entraîné? Et d'ailleurs, particularité pour toi, petite douleur à l'épaule ou même grande douleur à l'épaule. Donc, comment ça se gère? On l'a dit, le mot-clé, c'est la prudence avec Brice, parce que l'idée, c'est d'aller au bout et d'aller chercher ce défi. Comment on gère une blessure, entre guillemets, sur une préparation comme celle du Norseman?
Ouais, t'es bien renseigné.
Ouais, je suis renseigné.
Ah, il bosse bien. Hein.
Ouais. Ouais, effectivement. Alors moi, j'avais mis mon nom dans la loterie du Norseman, mais je pensais pas être tiré au sort, parce que, comme tu l'as dit, je fais des luxations à l'épaule depuis quelques années. Et là, j'en ai refait une cet été, donc j'avais pour ambition de me faire opérer cet hiver. Mais bon, en octobre, mon nom est sorti, donc
il a fallu faire avec. Ça,
Et j'ai fait du renfo, la reprise de la natation un peu plus régulière m'a renforcé l'épaule aussi. Donc pour le moment, j'ai aucun souci. Je croise les doigts pour ne pas chuter à vélo ou une chute bête dans la vie quotidienne, parce que là, je pense qu'elle pourrait ressortir. Mais sinon, dans l'entraînement et au quotidien, j'ai pas de souci.
Ouais.
Donc de ce côté-là, l'épaule, c'est pas ça qui me fait peur pour la course.
Si on parle de volume global d'entraînement, en termes d'heures d'entraînement par semaine, vous êtes à combien, Audrey et Bastien? Audrey, toi, t'es à combien pour l'instant?
Moi, je suis là sur la période actuelle où c'est là où on monte un peu en charge. Je suis aux alentours de 15 heures. J'ai jamais eu des gros volumes d'entraînement. Mon mari essaye de faire vraiment des choses plus spécifiques parce que je travaille, j'ai un double métier et puis j'ai la vie de famille à gérer à côté. Et du coup, voilà, faut arriver à tout combiner. Donc là, ça va être les périodes où ça va être les plus grosses charges, mais je ne suis pas au-delà de 15 heures sur la semaine.
Et en termes de nombre d'entraînements, toutes disciplines confondues, tu es à combien d'entraînements semaine?
Ah, je suis à 2 de chaque minimum. Et là, à 3, on essaye à 3.
Ok.
3 vélos, 3 courses à pied, 3 natations.
Voilà. Sur une
avec
semaine.
Un jour de repos, fois, ouais. Donc du
avec
coup,
un jour
forcément,
de repos, total.
Oui, okay. Oui. Mais bon. Du coup, on double voire voilà, sur d'autres jours.
Et toi, Bastien, comment tu t'organises? En termes de volume, t'es à combien d'heures, par exemple, sur une semaine?
Ouais, c'est un peu pareil, je suis entre 10 et 15 heures.
Ouais.
Là, il y a mes deux plus grosses semaines qui vont arriver avant de commencer à décharger un petit peu avant la course. Mais c'est ça, hein, c'est entre une et deux séances par jour. Pour finir, voilà, entre 10 et 15 heures. Là, ça va plus se rapprocher de 15 heures les deux semaines qui arrivent.
Ouais, c'est l'avantage du triathlon, même le triathlon extrême, Johan, c'est que bah, chaque discipline sert l'autre, sert la suivante.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que en fait, le volume, tu peux le travailler avec les deux sports portés par rapport à la course à pied.
Exactement.
Ouais. Et on n'est pas obligé de multiplier les kilomètres et d'en faire des tonnes en course à pied parce qu'on travaille tellement le cœur dans les autres disciplines qu'en fait, bah
ouais, la course à pied, c'est pas le. Alors, c'est important d'en faire parce qu'il faut justement habituer son corps à avoir ces chocs, la répétition des impacts au sol pour avoir justement cette capacité à tenir le marathon. Mais après, voilà, le gros volume se fait surtout en vélo, je pense, et un peu en natation. Mais le vélo reste le sport un peu central de ce truc-là. Mais c'est dur parce que tu dois t'entraîner à faire des gros volumes sans tomber dans le surentraînement.
Ah ouais.
Parce que derrière, tu sais que si tu arrives un petit peu fatigué par ta prépa, c'est comme sur marathon, bah derrière, ça pardonne pas. Tu vois, quand tu vas sur un marathon pour faire un chrono, si tu arrives un petit peu fatigué parce que tu en as trop fait dans ta prépa, bah tu sais que ça va être vraiment contre-productif, et à l'inverse, si tu n'en fais pas assez. Donc, c'est un équilibre à trouver.
Ouais.
C'est jamais facile. Et ça, il n'y a que l'expérience et la connaissance de son corps et de ses qualités, de savoir quels sont ses atouts dans sa manche. Tu vois, dans quel sport je suis suffisamment bon, comment ça va se passer. Mais par contre, ouais, après, c'est, moi, ce qui m'impressionne, c'est tout le travail de dénivelé qu'il faut faire par rapport à un Ironman déjà classique. Quoi. Donc,
parce que. Audrey, en montagne, Bastien, oui. T'habites où, toi?
Moi, je suis dans les Yvelines, donc côté de c'est un peu plus difficile, ouais.
Ah, bah, il y a des belles sorties de vélo, quand même, ça doit être sympa.
Ah, j'ai la vallée de Chevreuse qui est sympa, mais bon, le dénivelé, faut aller chercher, quoi.
Ouais, c'est quand t'as monté 3 km, ça y est.
Ouais,
c'est ça.
Une fois que t'es passé par Châteaufort et compagnie, là, il faut aller multiplier les ascensions, quoi, c'est sûr.
Ouais, mais du coup, je mets un peu plus l'accent sur la durée de selle, quoi. Je fais forcément un peu moins de dénivelé, mais j'essaie de sortir plus longtemps, du coup.
Plus longtemps, ouais.
Brice, on a toujours entendu sur un Ironman, la clé, de toute façon, c'est le vélo. C'est-à-dire que si tu descends fatigué du vélo, ça va te rendre ta course quasiment interminable. Alors qu'en fait, si tu sors assez frais, c'est là que tu feras la différence. C'est ça la clé, c'est le vélo, vraiment, sur des triathlons extrêmes comme ça?
Oui, c'est vraiment le point. Comme tu l'as dit, comme Johan l'a dit tout à l'heure, 180 km, c'est là où on passe de toute façon le plus de temps pendant l'épreuve. Hein. Les meilleurs sur le Norseman vont mettre dans les 5h30, mais vraiment on est sur les top athlètes. Hein. Et, ouais. Et la majorité, on va être autour des entre 6h30 et 7h30, voire 8h. Donc c'est beaucoup de temps sur le vélo. Beaucoup de temps à perdre de l'énergie sans s'en rendre compte, parce que l'une des difficultés pour le vélo, vu que c'est un sport porté, c'est qu'on ne se rend pas véritablement compte des efforts qu'on produit. Et terminer le vélo dans un bon état vous permet de bien finir. Moi, j'ai la particularité d'être un très mauvais cycliste, du moins par rapport au volume d'entraînement que je fais. Par contre, je suis pas trop mauvais en course à pied et c'est l'un des grands bonheurs que j'ai à faire du triathlon extrême. C'est qu'à un moment donné ou à un autre, si je pose le vélo et que j'ai un peu fait attention, je vais remonter des places et avoir cette sensation finalement d'être dans la course. Alors que pendant 6 heures, je m'étais fait doubler comme pas possible.
Ce qui mentalement est dur.
Oui, voilà.
Ça change tout.
Non, mais c'est sûr. Et là, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Ça s'est déjà gagné en moins de 10 heures. Tu te rends compte, tu vois?
moins de 10 heures.
Je vois en 2009, d'ailleurs, un Norvégien, Hans Christian Tungesvik, qui avait gagné en 9h59 et 40 secondes. Ça, c'est énorme. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une domination norvégienne, Brice, sur le Norseman? Oui, forcément. C'est leur terrain de jeu, donc ils sont plus à l'aise.
Il y a une domination norvégienne, mais je sens que peut-être cette année, il va y avoir un changement.
Avec qui?
Alors, cette année, on a la chance d'avoir un nouveau partant qui était là l'année dernière, qui s'appelle Lars Wischert, qui est allemand, et qui, cette année, lors de l'Ironman d'Hambourg, vient de réaliser le record du monde groupe d'âge en moins de 8 heures.
Ah oui.
Donc, il revient sur place, il a déjà l'expérience du terrain, il est très bon, c'est un ancien rameur de haut niveau. Voilà. Je mets une petite pièce sur l'un de nos Français, Alexis, qui a une grosse expérience et qui pourrait faire un top 5, je le pense. Mais c'est vrai que les Norvégiens sont les meilleurs sur place, pour une raison, c'est qu'ils peuvent venir reconnaître le terrain. Et actuellement, j'ai la majorité des copains que j'ai en Norvège et qui vont faire l'épreuve. Et je les vois, ils sont sur place, ils repèrent. Et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe francophone, pour accompagner les athlètes qui viennent, pour deux raisons. Parce que au final, l'accès à l'information pour ce type d'épreuve à l'étranger est compliqué à avoir. C'est en anglais, et des fois pour les Français, la langue de Shakespeare, c'est compliqué. Et de deux, finalement, vous vous rendez compte que la Norvège est un petit pays, il y a à peine une dizaine de millions d'habitants. Et finalement, quand vous êtes dans le monde du triathlon en Norvège, vous connaissez tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a fait, cette épreuve-là. Alors qu'en France, le contingent est moins important. Et donc, partager l'information fait que les gens qui font partie de mon groupe aujourd'hui ont la possibilité d'être un peu plus rassurés et avoir des réponses un peu plus pratiques à leurs interrogations pour y aller.
Ça dure combien de temps une prépa spécifique de Norseman, Audrey?
Alors ça, c'est un peu plus compliqué pour moi de répondre, parce que moi, ça fait plusieurs années que je fais des Ironman et des longues distances, à raison d'une course par an. Mais du coup, l'entraînement...
Ouais, c'est toute l'année, quoi.
Ouais, il est quasi constant. Et du coup, c'est ce qui... le corps, au final, est habitué. Ouais. Ce que disait Johan tout à l'heure par rapport au travail avec la course à pied, moi, j'axe un peu automne, prépa spécifique marathon. J'ai fait Valence, là, au mois de décembre.
Ah, magnifique. On s'est raté.
Voilà, du coup, c'est pour pouvoir, quand je peux moins faire de vélo, du coup, je fais quelques mois plus spécifiques de course à pied. Donc, on va dire que là, le travail spécifique Norseman, moi, c'est du moment où j'ai pu sortir le vélo dehors et d'aller chercher le dénivelé. Ça, c'est un vrai prépa spécifique Norseman, parce que c'est vrai que sur les autres triathlons, il fallait plus que je m'entraîne à pouvoir, on va dire, engager des watts sur un terrain plat et qui n'est pas très favorable à mon gabarit. Donc, coup, voilà. Ouais.
Donc, t'as dû t'ennuyer sur Valence le marathon, non? Où tu t'es dit, c'est déjà fini, quoi. Y a rien après. C'est que l'entrée.
après, pour aller chercher des temps sur marathon, c'est quand même très exigeant.
Ah, c'est différent.
Plus endurant. Donc, c'est vrai que sur Ironman, quand on sait gérer son endurance, et puis en vieillissant aussi, c'est plus confortable quand même.
C'est vrai que c'est des efforts totalement différents.
On se met. Pour moi, ça me demande plus de mental et d'aller chercher. Il faut toujours pousser quand même sur marathon. Ouais. On a l'impression que les gens trouvent que c'est quelque chose de facile. Enfin, il faut quand même pousser, il ne faut pas trop s'endormir.
Yoann a fait 2h09, hein. Il a dû un peu pousser quand même.
Ah ouais.
Ouais, c'est sûr.
Non, mais voilà, c'est quand même exigeant quand même.
Non, mais
marathon.
C'est sûr.
C'est exigeant.
Yoann, c'est une façon de pratiquer le sport qui est complètement différente, ça, c'est sûr.
L'Ironman?
Non, mais entre le marathon pour aller chercher un chrono et comme ça, d'une épreuve.
Ah, bah oui, non, c'est des choses différentes. Après, là, sur des efforts comme ça de 10, 12, 15 heures, l'alimentation aussi, elle est tellement importante.
Ouais, c'est sûr.
Tu vois, on dit souvent sur marathon, faut pas louper ses gels, c'est ravito et tout. Mais t'imagines là sur des épreuves, épreuves aussi longues, là il faut que tout soit calibré, il faut que ton assistance elle soit vraiment parfaite, que tout soit huilé et que toi tu sois capable de savoir un petit peu quand t'as un petit coup de fringale, quand t'as un coup de moins bien, qu'est-ce qu'il te faut, est-ce que tu veux encore du salé, du sucré.
Ah oui, bien sûr.
Enfin, faut pour moi c'est vraiment une discipline. Le premier doit être dur parce que c'est un saut vers l'inconnu. Autant quand t'en as couru plusieurs, je pense qu'au bout d'un moment tu te connais et encore t'as toujours des surprises. Mais ouais, c'est encore plus compliqué qu'un marathon à gérer.
Après, ça se travaille aussi. Bastien, comment t'as bossé le ravitaillement? Est-ce que t'as mixé sucré, oui, salé, solide, gel, etc.
Alors moi, je mets beaucoup dans ma boisson. Ouais, et j'essaye de tourner entre 70 et 100 grammes de glucides par heure.
Okay.
Et ensuite, bah, comme je vous ai dit, moi je suis sujet aux crampes, donc je fais très attention aussi au sodium, aux sels minéraux. Je sais qu'il me faut beaucoup plus que la moyenne, donc je fais très attention à ça. Je mets des pastilles dans mon eau et en plus j'ai des petites capsules de sel si jamais je sais que je suis un peu limite, quoi.
Ouais, donc une attention, une vigilance particulière. Et toi,
oui, puis si je fais un petit écart, moi je le paye.
Ah, tu le ressens tout de suite, c'est ça. Ouais. Les crampes, ça pardonne pas en plus.
Ouais, c'est ça.
Audrey, toi, t'as une technique particulière?
Non, bah pareil, un peu que Bastien. Donc déjà l'avoir travaillé à l'entraînement, parce qu'en finalement l'absorption des glucides au niveau digestif, il faut aussi que le corps soit habitué. Donc de travailler à l'entraînement et comme sur un marathon, c'est-à-dire qu'il faut pas louper au final son alimentation, quoi. Voilà, c'est calibré, c'est tout. On s'ennuie pas en fait, on fait que manger toutes les demi-heures et ben on prend la dose. On me dit tu manges sur Ironman? Je fais que manger.
Ouais,
et justement, oui, pour pas tomber en hypoglycémie. Et une fois que l'hypo elle est là, c'est voilà, il y a une heure plus tard, une heure qui est dure quand même. Ouais. Hein, donc oui, le but c'est quand même d'être voilà. Donc là, on verra avec le froid. J'ai testé parce que je pense que voilà, la dose est un petit peu plus élevée que quand en termes de glucose, que quand on est de glucides, que quand on est pas dans des conditions trop froides. Donc ça va être un peu le petit challenge de
Pour ceux qui nous écoutent, si on peut se projeter un peu, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de séances que vous avez réalisées dans les différents sports, Audrey par exemple? En vélo, quelles sont les séances que tu fais en course à pied, en natation?
Oui, alors en vélo, sur la semaine, il y a une séance où je vais travailler plutôt ce qu'on appelle le seuil, c'est-à-dire des blocs en fonction de la période où on en est dans la préparation, entre 8 et 12 minutes de blocs à des intensités de seuil. Donc là, en montée, moi j'ai la chance d'avoir des cols à côté, donc en montée.
T'as le terrain favorable.
Voilà, le terrain favorable. Après, il y a une séance qui est plus, on va dire, d'endurance, donc à watts constantes, pour toutes les parties plutôt plates, et puis pour pouvoir tenir dans la longueur à watts constantes. Et puis une séance de récupération, on va dire, pour faire tourner les jambes. Et puis après, en course à pied, d'un point de vue très spécifique pour le Norseman, je fais une séance de spécifique typée plutôt route, c'est-à-dire avec des 1600, des 800, des 200, de la vitesse pure sur piste. Ouais, ben, y a quand même 21 ou 23 km de plat, donc moi je voulais pas perdre, en fait, je voulais pas devenir diesel, pas perdre la vitesse.
Ça plaît au coach.
Pour faire un bon, une bonne partie sur le plat. Et après, je fais une séance plus typée trail. Pareil, je suis en montagne, donc je peux faire des kilomètres verticales. J'ai un kilomètre vertical juste à côté, donc la belle face de Bellevarde, la belle face de Bellevarde qu'on connaît en ski.
Ah oui.
Et ben du coup, sur le travail. Plus pour l'ascension, on va dire l'ascension finale ou le côté. Parce que le changement de rythme comme ça, je pense que, je sais pas, Brice nous a pas trop partagé son expérience, mais je pense que ça doit être un peu particulier, le changement de rythme, le plat et le changement de rythme qu'on peut avoir après sur la partie d'ascension. Donc voilà, ça fait partie.
Si, si tu veux que je te la partage maintenant et que je vous la partage à tous, en 2019, c'est quelque chose de fantastique. En 2023, c'est beaucoup plus compliqué. En 2019 et 2023, sur le plat, donc 25 km, je suis capable de sortir entre 4,15 et 4,30 au kilo et de rattraper beaucoup de personnes. Et en 2019, je suis bien dans la tête, pas de problème de fatigue et autres. Donc, Zombie, je le monte en... je crois à 55 minutes en courant. Donc le changement de rythme est impressionnant parce que vous passez de 4,30 pour moi sur la vallée à une montée à 5,40, 5,45 au kilo. Et les 5 derniers kilomètres, j'en parle pas, on était à 12 ou 13 minutes pour la montée finale dans la caillasse. Et en 2023, là où j'ai beaucoup plus de mal, j'arrive à Zombie après avoir fait une très bonne partie sur le plat, et là j'étais plus dans ma course, donc je me suis dit bon bah c'est l'occasion de taper la discute avec les copains autour, et donc j'ai fait ma petite balade et on était sur du kilomètre vers les 7 minutes au kilomètre pour arriver jusqu'à la fin, quoi.
Bon, voilà, donc il n'y a pas de règle, et puis ça dépend des conditions du jour et puis des conditions climatiques aussi. Tu as 2-3 exemples de séances de course à pied, toi, que tu peux nous donner, Bastien?
Alors moi, j'ai fait beaucoup de vitesse cet hiver et au printemps, là j'en fais un peu moins. Je suis plus spécifique à l'épreuve Ironman. Je fais encore une séance de fractionné comme Audrey, mais beaucoup moins rapide, autour du seuil 1 surtout. Ouais. Après j'ai une deuxième séance de un footing classique à basse intensité. Et puis le week-end, là j'essaye de rallonger, mais surtout en faisant des enchaînements. Je roule 2 fois, samedi matin, dimanche matin, et j'enchaîne à chaque fois.
Ouais. Avec de la course.
Ouais, c'est sûr.
Avec de la course. Donc le samedi, je fais un gros vélo et j'enchaîne 45 minutes, 1 heure à pied. Et le dimanche, je fais un peu plus court à vélo, mais par contre, l'enchaînement, je le rallonge de plus en plus à pied.
Bon voilà, ça fait envie, tout ça, on vous donne rendez-vous le 3 août à 5h du matin, dans l'eau du fjord.
On pense aller chercher pour le saut, pour voilà. Un t-shirt
Pour un t-shirt noir, hein, c'est tout, il n'y a même pas de médaille.
Il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'un t-shirt noir à l'arrivée.
Ouais, Audrey, Bastien, on pensera fort à vous, mais vous viendrez débriefer d'ailleurs votre Norseman dans RMC Running. Brice, tu restes là également, on passe tout de suite au bon plan matos.
RMC.
Le bon plan matos.
Parce que l'important quand on prépare ce type d'épreuve, c'est aussi la récupération. On va parler à un spécialiste en la matière, la marque Compex. Et oui, l'électrostimulation qui peut vous permettre de récupérer plus vite. On est avec Mathieu Pourouche, qui est directeur marketing chez Compex. Salut Mathieu.
Salut à vous.
Mathieu, là, tu as des clients potentiels. Hein. Là, ceux qui préparent le Norseman, a priori, ils ont besoin de produits de récupération. Hein.
J'espère qu'ils sont déjà équipés même. Effectivement, quand j'entends ça, je pense qu'ils vont en avoir besoin. Même.
Ouais. Bah, rappelle-nous ce qu'est Compex, ce que représente Compex sur le marché français. C'est vraiment votre spécialité pour les sports comme ça, comme le triathlon, pour la course à pied en particulier. C'est favoriser la récupération musculaire à travers de l'électrostimulation, c'est-à-dire améliorer le flux sanguin, si je peux dire comme ça, pour limiter les courbatures. C'est un peu ça, si on grossit le trait, Mathieu.
Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est vraiment d'accompagner le sportif dans sa pratique, hein, que ça soit une préparation du Northman ou alors courir les 5 km au bout de chez soi. L'idée, c'est vraiment d'accompagner tous les sportifs. Alors avec de l'électrostimulation, mais maintenant on a élargi un petit peu les technologies. On fait maintenant de la pressothérapie, on a de la thérapie par la percussion. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir permettre à chacun de faire de pouvoir faire son activité en étant en bonne santé. Donc avant l'effort, après l'effort, bien réparer les petits bobos, préparer les muscles et vraiment pouvoir faire son activité en étant en bonne santé.
On parle régulièrement de prévention de blessures. Johan, toi, tu es un fan de ce genre de choses. Hein. C'est vrai que...
Oui, moi j'ai la chance d'avoir été accompagné par Compex.
Ouais.
Et donc du coup, c'est vrai que ça soit l'électrostimulation quand tu as des pathologies un petit peu musculaires, que ça soit quand tu as des courbatures, les pistolets pour venir détendre et décontracturer un peu toutes les zones sensibles, la pressothérapie quand tu as les jambes un petit peu lourdes, pareil, les bas de contention, les chaussettes. Il y a plein de moyens comme ça pour justement prendre soin un peu de ses jambes et faire en sorte que C'est pas seulement après la compétition, tu vois, c'est surtout après les entraînements.
Ouais, bien sûr.
Où, quand tu es chargé musculairement et que le lendemain, il faut repartir à l'entraînement, il faut un peu prendre soin de ses muscles. Et c'est vrai que Complex a une variété totale de produits pour ça. Ouais.
Bon, on met en avant le Complex Fix Mini aujourd'hui, masseur portable sans fil à utiliser un peu partout.
C'est facile.
Ouais. C'est l'avantage, c'est la taille et c'est la portabilité, Mathieu. Là, c'est vraiment un outil qu'on peut emmener partout, même en vacances. Hein.
Ouais, là, l'avantage de celui-ci, voilà, c'est qu'il est très pratique, c'est facile à emmener, c'est facile à utiliser aussi. C'est vrai qu'on a souvent les contraintes de l'électrostimulation, il faut que les électrodes sur la peau, il faut que ça corde 20 minutes. Là, les pistolets de massage, c'est très facile, on peut l'utiliser par-dessus les vêtements, c'est 2-3 minutes par zone, on va l'utiliser avant pour se faire une activation musculaire, on peut l'utiliser juste après une sortie. Pour diminuer les courbatures, donc le côté portatif est plutôt pas mal pour les gens qui voyagent un petit peu à droite à gauche. On peut vraiment l'emmener, et comme c'est assez polyvalent comme outil, c'est vrai que ça s'est pas mal répandu. Hein. Et donc là, le Fix Mini, donc nous, c'est le plus petit modèle de la gamme,
ouais,
qui est vraiment très facile à transporter. Ouais.
Combien ça coûte, Mathieu?
Alors nous, il est vendu à 149€, il vient de sortir, et donc comme tous les pistolets de massage, hein, on a différents niveaux de fréquence, hein, la puissance reste la même, mais différents niveaux de fréquence, et on peut changer aussi les têtes pour pouvoir solliciter parfois voilà les muscles ou les articulations en fonction des besoins qu'on a.
Et c'est un magnifique cadeau, en tout cas, vous le retrouvez sur le site de Complex, sur les différents revendeurs running aussi, et sur un peu tous les sites, donc allez-y, ce magnifique Fix Mini, on en fait gagner d'ailleurs un exemplaire, merci beaucoup Mathieu pour cette contribution, la communauté RMC Running va pouvoir tester ce Complex Fix Mini, le test d'écoute Johan. C'est le nom qui fait peur de la montée du Norseman. Voilà, on l'a dit plusieurs fois, ça donne des sueurs froides. Voilà, vous répondez à ce test d'écoute et vous pouvez participer au test. Et je remercie Mathieu parce qu'en plus de ça, on met en avant un code promo. Mathieu, merci beaucoup. Le code promo RMC Running sur le site Complex. C'est-à-dire que si vous allez sur le site Complex, vous choisissez un article, si vous rentrez le code promo RMC Running, vous avez 20% de réduction pour les 100 premières commandes. C'est beau ça, Mathieu, merci. Hein.
Eh bien, écoutez, si on peut vous aider à courir plus vite et en bonne santé, on est
là. Voilà.
C'est ça.
Merci. Merci Mathieu, à bientôt dans RMC Running.
Merci
pour ta participation. Merci à nos champions de l'extrême. Merci à Brice, merci à Audrey, merci à Bastien. On
et
pense
bon
très fort à vous. Et on se revoit rapidement.
Hein.
On se reparle en tout cas à la mi-août, hein, une fois que vous aurez décroché le
on
t-shirt.
On veut le débrief.
On veut les t-shirts noirs surtout. Ok.
Ouais.
Bon, merci Audrey, merci Bastien,
merci.
Merci
salut,
Brice,
bonne journée.
Merci à tous les deux.
Merci, bye bye.
Pour terminer, on vous a mis une musique qui fait peur. Voilà, on l'a choisie nous-mêmes parce qu'on trouvait que ça ressemblait bien au Norseman. C'est Yann Post, Made in Hollywood. Voilà, là on est plongé dans l'univers du Norseman et on va plonger dans le fjord. Voilà, ça donne envie à Johan Durand de mettre son bonnet de bain.
Oui.
Allez, merci à toi aussi, Johan. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut.